Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Sport. Aujourd'hui, c'est une nouvelle émission consacrée à l'UFAB 49, notre partenaire basket, avec donc cette équipe qui évolue en LFB. Mais avant ça, je vais présenter ceux qui sont autour de la table avec moi. L'équipe titulaire est toujours aussi présente. Max est à ma gauche. Salut Max.
Salut Alex et bonsoir à tous les auditeurs de Radio G.
Et Cédric est à ma droite. Salut Cédric.
Salut à tous.
Donc au programme de l'émission, évidemment, le fameux 1-2 que vous avez l'habitude. On va revenir avec Max sur toute l'actualité sportive locale et internationale. Et puis effectivement, par la suite, on reviendra avec notre invité Jade Gaillard, que j'ai oublié de saluer d'ailleurs. Salut Jade.
Ah là là, commence bien.
Et effectivement, je suis pas très poli.
Oui, complètement mal poli, mais...
Voilà, donc...
Vas-y.
N'hésite pas à dire les termes, n'hésite pas.
Puni, fermé dans un placard, enfin, on va trouver une sanction.
On va y penser.
On va te mettre sur le banc de touche.
En attendant, donc, effectivement, il y aura l'interview de Jade Gaillard qui viendra juste après la première pause musicale. Et puis voilà, c'est soirée de Ligue des Champions, on rappelle. Ce soir, donc, plusieurs matchs sont à retrouver. Max vous en parlera un petit peu plus tard dans le 1-2. Mais d'abord, il va commencer avec les actualités locales. Max, je te laisse la main.
Et oui, on va commencer avec le foot et le SCO. On va d'abord parler de l'équipe première qui jouait en championnat de France. C'était dimanche au stade Raymond Coppa avec la réception de Lorient et une victoire finale 1-0 avec un but sur pénalty signé Thomas Mangani. Le prochain match des Angevins, ce sera un gros déplacement dans une des équipes qui séduit le plus depuis ce début de saison. Ce sera face à Lens. Et si on regarde le classement, le SCO est remonté à une très belle 6e place. Et puis une autre actualité qui concerne le SCO, c'est pas la première, mais les jeunes, les U19 qui étaient encore en Youth League, la Ligue des Champions des U19. Mais malheureusement pour les SCOistes, ils se sont fait éliminer. C'était aujourd'hui, ils jouaient face à l'AZ Alkmaar et ils se sont... Alors ils ont gagné le match, ils ont gagné 1-0, ouais. Mais au cumul des deux scores, il y a eu un partout et la décision s'est jouée au tir au but et malheureusement les Angevins ont perdu 5-4, donc voilà, les SCOistes s'arrêtent à ce stade-là de la Youth League.
Au moins la règle qui a été mise en place pour les pros est aussi mise en place au niveau en dessous, ça c'est une chose qui, voilà, au moins on sait que pour une fois... Il y a une harmonie dans les règlements.
Ouais, et puis même, moi j'avais vu un peu la fin du match, c'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait des joueurs donc, qui commençaient déjà à avoir des crampes, donc effectivement, moi je les voyais mal faire une prolongation de 30 minutes. Donc effectivement, les tirs au but, même avec les déplacements, on sait que les jeunes ne sont pas habitués à se déplacer en Europe. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose de passer directement au tir au but. Malheureusement, c'est Wanis Taibi qui a raté son pénalty et qui malheureusement a... provoquer l'élimination du SCO. On va passer à une autre équipe du SCO, c'est le SCO Handball. Les semaines se suivent et se ressemblent du côté de la Pro League face à un concurrent direct au maintien. Les Angevins ont enchaîné un 7e match consécutif sans victoire. En Moselle, la partie avait pourtant bien commencé pour les SCOistes qui faisaient la course en tête en première mi-temps. À la pause, les deux équipes se quittent sur un avantage en faveur des SCOistes de 1-0, 11-10. Mais la seconde période a basculé très rapidement à la faveur des locaux qui imprimaient le rythme face à des Angevins en peine offensivement. Et puis après avoir cédé l'avantage à un quart d'heure de la fin du match, les joueurs d'Issam Tej s'inclinent finalement 26-22 après une fin de match complètement en roue libre. Une mauvaise opération de plus dans la quête du maintien pour le SCO et qui reste donc cloîtré à sa place de lanterne rouge à 3 points du premier non relégable. La victoire est donc impérative lors du prochain rendez-vous à domicile contre Billière, équipe classée 8e du championnat.
On va parler un peu des Ducs d'Angers, on les avait laissés la semaine dernière, c'était pendant la trêve internationale et depuis les Ducs ont joué deux matchs. Mercredi dernier, les Angevins recevaient Briançon et les Hockeyeurs Angevins ont largement dominé le match et l'ont remporté 5-1. Et vendredi dernier, les Angevins recevaient les Rapaces du Gap et malheureusement, les Angevins se sont inclinés 2-1. Au niveau du classement, les Angevins sont toujours à une très belle deuxième place. Et ce soir, donc c'est dans 20 minutes, les Angevins se déplacent pour affronter Cergy-Pontoise, qui, on le rappelle, sont troisième au classement de la Ligue Magnus. Et donc, si les Angevins gagnent, eh ben, c'est l'occasion de consolider cette deuxième place.
On va enchaîner avec du basket. L'un des résultats les plus attendus du week-end du côté des clubs angevins, c'était le choc entre les deux premiers de la poule de National 1, entre l'EAB et Rueil. Une affiche qui a tenu toutes ses promesses et qui a basculé en faveur des joueurs de Sylvain Delorme. Le technicien angevin a d'ailleurs eu toute son importance dans le Money Time lorsque les joueurs de l'Étoile étaient encore menés de 6 points à 3 minutes de la fin du match. Une situation que les coéquipiers de Karim Gourari ont réussi à renverser pour s'imposer 75 à 73 dans une salle Jean Bouin comblée. Ce succès est un véritable coup de maître et il permet aux basketteurs angevins de prendre de l'avance avec donc deux victoires d'avance sur leur dauphin, donc Rueil. Et puis c'est surtout de bon augure avant la trêve internationale de 2 semaines qui permettra de faire souffler l'effectif de l'EAB. On enchaîne avec l'UFAB. Après 2 grosses défaites de suite, les joueuses de David Gauthier ont bien su rebondir en championnat contre La Roche-sur-Yon pour ce derby des Pays de la Loire qui promettait. Et en effet, ce choc a tenu toutes ses promesses avec une rencontre très serrée. Pourtant, les Angevines ont souvent été menées dans la partie, la faute à un début de match trop timide dans lequel elles ont laissé les Vendéennes prendre la main. C'est en deuxième mi-temps que les coéquipières de Jasmine Bailey se sont réveillées et ont retrouvé leur efficacité offensive. En toute fin de match, les joueuses de David Gauthier donc menaient à 76 à 74, mais les locales disposaient d'une dernière possession et grâce à une bonne défense, les Angevines parvinrent à conserver leur avantage au score et à décrocher ainsi leur 4e succès de la saison. Ce succès qui permet donc également de remonter à la 5e place avant leur prochain match qui aura lieu dimanche prochain à domicile contre Charleville-Mézières, les leaders du championnat. On va évidemment parler de toute l'actualité de l'UFAB avec notre invité Jade Gaillard juste après ce 1-2. Et puis on termine avec un mot de Cholet en B-Click Elite. Rien ne va plus pour l'équipe de Laurent Villa qui est désormais dans la zone de relégation après sa défaite à domicile 86 à 71 contre Nanterre. Les Choletais qui ne cumulent que 3 victoires depuis le début de la saison. Un bilan inquiétant avant d'affronter dans 2 semaines l'actuel leader de la phase régulière, Boulogne-Levallois.
On va ouvrir la page des actualités mondiales, on va reprendre le foot, on va d'abord parler de la Ligue 1 et de cette 14e journée que nous avons pu suivre ce week-end. Monaco et Lille se sont quittés sur un très bon match 2-2, Paris a remporté son match face à Nantes 3-1, Brest a cartonné face à Lens, victoire des Brestois 4-0, Rennes continue son beau parcours en battant Montpellier 2-0, Strasbourg et Reims se sont quittés 2-2, 1-1, Metz et Bordeaux nous ont offert un match spectaculaire, score final 3-3, Saint-Etienne gagne son 2e match d'affilée face à 3, victoire des Stéphanois 1-0, et Nice a battu Clermont 2-1, mais malheureusement l'image qu'on retiendra de cette journée de Ligue 1, messieurs, c'est ce jet de bouteille sur Dimitri Payet. C'était lors du choc Olympique Lyonnais contre l'Olympique de Marseille qui a vu le match être arrêté définitivement. Est-ce qu'on peut juste en dire très vite fait un mot, Cédric?
Ouais, encore un incident qui a été splendidement traité, on va dire.
Ouais.
Non, mais c'est... Je pense qu'on n'a toujours pas compris ce qui s'était passé à Nice. Je pense que... Tant que la Ligue, et même la Fédé, parce que bon, la Fédé, enfin la Ligue dépend de la Fédé, mais la Fédé, c'est vrai qu'on les a jamais trop entendus là-dessus. Je vais être un peu grossier, mais poseront pas leurs couilles et chercheront pas à résoudre le problème, ça avancera pas.
Ouais, clairement.
On a eu un jugement rapide de cette personne qui va prendre du coup 6 mois de prison.
Avec sursis.
1 euro symbolique pour le club de Marseille, pour Dimitri Payet et pour la Ligue. Je trouve ça un peu culotté de la Ligue qui s'était portée partie civile dans cette affaire de réclamer, même si c'est qu'1 euro symbolique. eux, ils sont un peu responsables, sachant qu'ils n'ont pas fait bouger les choses. Et du coup, il est interdit de 50 stades, mais que au stade de Lyon, apparemment, selon la loi qui a été mise pour les interdictions en stade. Donc, on va dire, en termes d'interdiction sportive, je pense que c'est un bon exemple, effectivement. Bon, même si ce n'est pas tout à fait complet, rien ne l'empêche d'aller dans un autre stade et de recommencer. Mais on a un début de solution, au moins là-dessus. Après, ce n'est pas les déclarations encore de notre cher ministre des Sports qui, plutôt d'essayer de comprendre la chose, et rallume un peu le feu entre les différences entre les sports. Dire qu'elle a passé un très bon moment avec son fils au rugby, oui, c'est bien, sauf que c'est pas le même public, c'est pas la même façon d'être. Au rugby, il y a aussi des soucis, moindres, mais les insultes, les choses comme ça, il y en a aussi en tribune. Il y a peut-être moins d'action légale sur les terrains. Mais voilà, donc rien que cet amalgame-là, je trouve, de mettre en porte-à-faux les sports, c'est pas digne d'une ministre des Sports. Elle représente tous les sports dans son ensemble, même si elle n'aime pas le foot. Elle doit prendre sa défense et essayer de comprendre le pourquoi des choses et pas d'être tout le temps dans l'accusation.
Voilà, en tout cas, affaire à suivre, on essaiera de communiquer les prochaines décisions qui vont être prises, puisque je pense que ça va être un tournant dans la saison du championnat de France. On continue à parler de football, puisqu'il y a une très grosse soirée de Ligue des Champions, et demain également, il y a deux matchs actuellement, on ne va pas revenir sur tous les matchs, mais actuellement il y a deux matchs. Le Bayern se déplace à Kiev en Ukraine pour y affronter le Dynamo, 2-1 entre les deux équipes en faveur du Bayern de Munich, et puis Villarreal reçoit Manchester United, 0-0 entre les deux équipes. Ce soir, Lille reçoit le RB Salzbourg et demain, le Paris Saint-Germain a aussi un très gros match face à Manchester City, l'occasion pour les deux équipes françaises de prendre la tête de leur groupe en cas de victoire.
On va enchaîner avec du rugby, un très très bon résultat, une très bonne nouvelle qui est arrivée donc samedi soir, c'était au Stade de France, l'équipe de France qui a battu la Nouvelle-Zélande 40-25. Un match vraiment intéressant et puis surtout, voilà, c'était vraiment du plaisir pour tous les amateurs de rugby en France. 4 essais avec ceux de Movaca, d'Entamac, encore un autre de Movaca et puis de Damien Penaud. Voilà, une très belle victoire. Après, il y avait quand même eu en début de deuxième un petit léger moins bien pour les Français. Mais en tout cas, voilà, très belle victoire des Bleus qui... on ressort évidemment grandi cette belle victoire. À noter également la très belle relance de Entamac qui a fait beaucoup parler. Voilà, l'équipe de France montre qu'elle a un très bon vivier. Cédric, tu veux peut-être en dire deux mots aussi ?
Ouais, il me semble qu'en plus, en termes d'écart, c'est une victoire historique.
Ouais, c'est vraiment un bel écart.
L'équipe de France. Non, c'est vrai qu'on a vu. Mais je trouve que ça a été. Pour une fois, ça portait bien son nom de match test. Parce qu'on a vu cette première mi-temps où ils ont marché dessus, que c'était impressionnant. Enfin, même, ok, si c'est plus les Blacks dominants qu'on a connus, parce que c'est vrai qu'ils sont coutumiers des défaites.
Là, le dernier match avant le 15 de France, ils ont perdu. Ouais. Alors, je ne sais plus si c'était contre l'Irlande ou l'Écosse.
En fait, il faut savoir que du coup, les All Blacks ont enchaîné donc une deuxième défaite consécutive en Europe. Et c'est une première depuis les années 30. Donc c'est quelque chose d'assez rare.
Mais la tête de l'entraîneur est... Les mises à prix. Ces jours sont comptés en tant qu'entraîneur.
Oui,
c'est vrai que même quand ils affrontent l'Australie, maintenant l'Argentine et l'Afrique du Sud, ils ne sont même plus aussi dominateurs dans cette conférence-là. Et c'est vrai que la deuxième mi-temps, quelque part, il y a eu ce côté. On a vu des Blacks qui ont voulu réagir, qui les ont dominés, je dirais, facilement pendant une vingtaine de minutes.
Il y a eu deux essais dès les 11 premières minutes de jeu. Donc
Et derrière, on a su réagir et puis faire notre jeu. Moi, j'ai regardé le match. Franchement, je ne me suis pas ennuyé. Pas de temps mort. C'était du beau rugby. Ouais.
Non, vraiment une très belle génération. Et puis, on rappelle, la Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Un peu moins de 2 ans, du coup, en France. Donc voilà, ce sera... Une superbe occasion pour les Bleus de peut-être aller chercher cette Coupe du Monde.
Surtout pour le tournoi majeur qui va arriver.
Le tournoi de destination, évidemment, toujours comme chaque année.
La dernière fois qu'on avait battu les All Blacks, c'était le 13 juin 2009. Ça fait un peu plus de 12 ans.
Voilà. Max.
Et donc, on va repartir après cette petite pause de rugby. On va repartir, on va parler tennis, puisqu'il y a eu les finales ATP qui ont eu lieu la semaine dernière. On a d'abord eu une très grosse surprise en demi-finale, puisque le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, est tombé face à Alexander Zverev, le numéro 3 mondial. Je vais y arriver. L'Allemand a battu donc le Serbe Djokovic en 3-7, 7-6, 4-6, 6-3. Et en finale, Zverev affrontait un autre très très talentueux, Daniil Medvedev, le russe, et c'est finalement Zverev qui l'a emporté en 2-7, 6-4, 6-4. Grosse année donc pour Zverev qui, on le rappelle, a gagné les Jeux Olympiques cet été. Et puis ces finales ATP ont aussi eu un tournoi double messieurs. Et devinez qui a remporté ce tournoi ? C'est bien évidemment l'Angevin Nicolas Mahut avec son compère de toujours, Pierre-Hugues Herbert. Donc voilà, nouvelle victoire en double pour Nicolas Mahut.
On va enchaîner avec les sports automobiles. Eh oui, il n'y a pas que la F1, il y a aussi le rallye WRC. Vous connaissiez sûrement Sébastien Loeb, hein, le non-nuple champion du monde. Eh bien, vous connaissez sûrement également Sébastien Ogier, qui est maintenant octuple champion du monde. Il a décroché ce week-end son 8e titre mondial avec son copilote Julien Ingrassia dans l'écurie Toyota. Voilà, c'était ce dimanche lors du Grand Prix de Monza. Donc voilà, victoire de Sébastien Ogier qui... n'est qu'à un titre de Sébastien Loeb, même si donc son copilote va raccrocher pour la saison prochaine.
Ouais, et puis même lui apparemment n'est pas l'idée d'aller chercher.
Il va se reconvertir, je crois, Et puis un petit mot de Formule 1. Lewis Hamilton s'est imposé lors du Grand Prix de Doha au Qatar ce dimanche. L'octuple champion du monde britannique a devancé son rival, le néerlandais Max Verstappen, et il a ainsi réduit l'écart en haut du classement des pilotes. Seulement donc 8 points séparent les deux concurrents au titre de champion du monde. Voilà, avant les deux derniers Grands Prix de la saison, voilà, encore une fois, c'est vrai que l'écart se creuse pas, justement, l'écart se rétrécit, et ça va vraiment être une fin de championnat très haletante.
Ouais, encore avec une décision FIA qui...
J'ai l'impression que chaque week-end, il y en a une.
En ce moment, ouais, c'est... Elle est moins discutable, puisque c'est de l'application stricte et pure. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin des essais qualificatifs, il y a Gasly qui s'est arrêté juste après la ligne de départ, enfin, la ligne de chronométrage. Donc, du coup, il y a eu drapeau jaune, Mick a disparu, c'est repassé drapeau vert. Après, c'est repassé jaune, c'est repassé vert. Et il s'est avéré que Verstappen est arrivé assez vite et il s'est pris un double drapeau, ce qui a expliqué qu'il s'est pris 5 places de pénalité puisqu'il était deuxième sur la grille de départ normalement. Il s'est retrouvé en 7e place. Alors heureusement, il a fait cette remontée. Donc ça a un petit peu peut-être faussé encore les cartes. Mais bon, là, apparemment, on met la faute sur Verstappen. Il y a aussi Bottas qui a été condamné de 3 places et Sainz aussi de 3 places. Mais... c'était un nouveau Grand Prix. Est-ce que les commissaires étaient bien formés réellement ? Est-ce qu'ils n'ont pas hésité aussi ? Enfin, je pense qu'il y a des choses à revoir. Et puis, l'annonce est surtout que le week-end prochain, c'est que Mercedes et Hamilton, enfin, pas le week-end prochain, mais dans 15 jours, rechangent de moteur et ils reprennent le moteur qu'ils avaient au Brésil. Donc, pareil, je pense que ce point-là du règlement va vraiment falloir le revoir parce que... quand on voit ce qu'a fait le moteur au Brésil, il sera sûrement encore plus frais. Il sera en tout cas plus frais que celui des Red Bull. Donc, scénario compliqué à deviner, je pense, pour la fin de la saison.
Eh bien, très bien. On suivra ça de près. Max, est-ce que tu as encore une info ou je balance les trois peut-être dernières infos ?
Non, on va revenir sur une info de tennis qui, malheureusement, n'est pas un tournoi, mais vous l'avez tous deviné. Peng Shuai, hein, la joueuse de tennis chinoise qui avait accusé de viol l'ancien vice-premier ministre, il me semble, de Chine, elle avait accusé de viol, avait momentanément disparu, puis elle est réapparue. Mais encore une fois, sa réapparition est étrange. Elle serait en communication avec le président du comité international olympique, mais les sources proviennent de journaux chinois qui sont dirigés par l'État. Donc encore une fois, on pense que la joueuse serait encore en captivité, ou encore elle serait protégée, enfin pas protégée, loin de là, elle serait surveillée de très près. Donc affaire à suivre, et malheureusement c'est une info sportive qui n'est pas très rassurante.
On va enchaîner avec trois infos un petit peu plus réjouissantes. On va parler d'abord karaté. Près de 4 mois après son sacre olympique à Tokyo, Steven Dacosta a décroché donc son titre de champion du monde. Le deuxième de sa carrière, hein. Il était champion sortant dans la catégorie des moins de 67 kilos. À Dubaï, il a battu le Macédonien Emil Pavlov. Et donc voilà, encore une très belle année pour Steven Dacosta. On rappelle que le karaté ne sera pas au JO de Paris.
Mais on aura le b-box.
Effectivement, on aura le... Oui, non, c'est pas...
Enfin, pas le b-box.
Non, le pas b-box, le breakdance.
Le breakdance.
Et on va enchaîner avec une info handball. La joueuse très expérimentée Siraba Dembélé, qui a donc 35 ans, a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Elle tire donc sa révérence après 291 sélections. Elle est championne du monde en 2017, championne d'Europe en 2018 et notamment médaille d'argent aux Jeux de Rio en 2016. Et puis une dernière info en voile, c'était l'arrivée de la Transat Jacques Vabre aujourd'hui. Franck Camas et Charles Caudrelier ont remporté donc Transat Jacques Vabre donc en ultime. Et puis du côté de l'Océan 50, donc l'autre catégorie de la Jacques Vabre, c'était la victoire donc de Rogue Souban qui ont remporté donc cette catégorie de cette transatlantique. On va tout de suite marquer une courte pause musicale puisque le temps presse, hein, il est déjà 20h27. Et puis on se retrouve juste après pour l'interview de Jade Gaillard. On se retrouve donc juste après le titre « Jour meilleur » de Aurel San.
Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-goût déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. Comme dans toutes les chansons de Faria, tous les meufs sont partis. Comme dans tous les morceaux de rap où tous tes potes t'ont trahi. Des fois t'as besoin de soutien, des fois t'as besoin d'un ami. Des fois t'as besoin d'avoir la haine, des fois t'as besoin d'un ennemi. En vrai, tu peux pas tout contrôler, faut que tu l'acceptes. Être heureux c'est comme le reste, faut d'abord apprendre à l'être. Je sais, tu vas te coucher en disant demain je le fais. Tu te réveilles en disant demain je le fais. Mon ami, laisse-moi dire deux trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière-goût déjà vu. Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin sauf si tu le fais. Quand t'as le désert à traverser, y'a rien à faire sauf d'avancer. Rien à faire sauf d'avancer. rira quand on verra sous un jour meilleur, jour meilleur, jour meilleur. On en rira quand on verra sous un jour meilleur, jour.
De retour dans les studios de Radio G pour la suite de votre émission Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour évidemment parler avec notre invité Jade Gaillard, donc joueuse à l'UFAB 49. C'est Cédric qui aujourd'hui est en charge de l'interview. Et bah, du coup, Cédric, je vais te laisser la main pour,
ouais, ma première,
pour
du coup,
interviewer notre invité.
Ma première niveau basket.
Effectivement, oui, c'est vrai.
Donc, Jade, déjà, on te remercie d'être là. Donc, tu es né le 28 juillet 2002.
C'est ça.
Donc, ce qui doit faire que tu dois être une des plus jeunes joueuses du groupe cette
oui,
année.
Oui, je suis la plus jeune avec une autre fille qui a le même âge que moi. On est deux.
Donc, voilà. Donc, ton poste, alors ce que j'ai vu sur le site, c'est un poste de 1 ou 2.
Oui,
enfin, 1-2.
Meneuse ou arrière.
Meneuse et arrière, c'est ça. Donc, j'ai bien trouvé les bonnes infos. Au niveau de ta carrière, tu as débuté le basket à l'âge de 9 ans.
Oui, c'est ça.
Au niveau des clubs, tu as été à Brussire.
Oui, à Brussire, oui.
Ensuite, La Rochelle.
Oui.
Et ensuite, tu as rejoint l'UFAB.
Oui, c'est ça.
Ouais. Donc, avant tes 9 ans, tu pratiquais déjà le sport ou...
J'avais fait du tennis pendant 2 ans.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à l'âge de 9 ans, t'as eu envie de rejoindre le basket ?
De base, j'aimais pas forcément ça. Et en fait, j'avais une amie qui en faisait. Et du coup, pour m'amuser, je me suis dit, bon, je vais en faire avec elle. Et au final, voilà.
Ouais, du coup, tu y as pris goût.
Voilà, c'est comme ça.
Ouais, t'as fait le passage du sport individuel
voilà,
au sport
collectif.
Donc, aussi, on en parlera tout à l'heure, mais t'as aussi vécu l'équipe de France.
Oui.
Donc ça, je pense que ça a dû être une fierté pour toi d'y accéder.
Oui, et... c'était une belle expérience. Oui. Ouais.
Donc, cette année, pour l'instant, tu as joué un seul match, c'est ça ?
Oui, un seul, oui.
Justement, comment tu sens ta saison par rapport à ça, le fait d'avoir moins de matchs ? Alors, j'ai vu que tu étais présente des fois sur la feuille de match, en tout cas, tu étais dans le groupe.
Oui.
Pour une joueuse qui, comme toi, l'année dernière, je crois que tu as joué à peu près 17 matchs.
Oui, ça doit être ça, oui.
Le fait de jouer moins cette année, c'est un choix lié, parce que je suppose qu'à côté de ça, tu continues tes études aussi.
J'avais commencé la fac de sport, mais j'ai arrêté.
D'accord, oui, parce que ça doit être compliqué de gérer le niveau ouais. professionnel et le côté scolaire.
Oui.
Et du coup, oui, cette année, pour l'instant, moins de temps de jeu. Pour toi, c'est dû à quoi ?
Après, je savais... Qu'en restant en G, j'aurais moins de temps de jeu parce qu'il y avait déjà 10 joueuses pro. En fait, l'année dernière, j'étais dans les 10 joueuses. Alors que cette année, je ne suis pas compris dans les 10 joueuses pro. En fait, on est 12. Du coup, il y en a forcément 2 qui, le week-end, ne jouent pas. Après, moi, je joue aussi avec l'équipe Espoir, les plus jeunes, les N2. Donc, quand je ne joue pas avec les pros, je peux quand même jouer en Espoir. Et après, avec les pros, là, j'ai fait un match. La meneuse titulaire s'était blessée, du coup c'était l'occasion pour moi de pouvoir jouer. Après, là il y a Tutti Gandega du coup qui est parti, donc ça laisse une place. Donc ce week-end contre La Roche, j'y étais mais je suis pas rentrée, c'était serré, voilà. Après c'est à moi de faire en sorte que le coach me fasse jouer aussi.
Mais en tout cas voilà, oui t'as quand même du temps de jeu en jouant avec les N2.
Voilà c'est ça.
Et ce qui te permet de garder quand même ton niveau.
Oui, c'est ça.
Voilà. Justement, ça se passe comment la saison avec les N2 ?
Ça se passe plutôt bien. On est deuxième de N2, donc oui, ça se passe bien. On a 2 défaites, je crois, et 5 ou 6 victoires. Donc ça se passe bien, oui.
Et du coup, au niveau des entraînements, ça te fait des doubles entraînements ou...
je m'entraîne toujours avec les pros et juste le match, je le fais. Voilà, c'est ça.
Nico, vous avez des questions par rapport
Justement, l'intégration par rapport à ça, sur les matchs du week-end, tu les découvres un peu les joueuses sur les matchs ?
C'est des filles avec qui j'avais été quand j'étais au centre de formation. Il y en a avec qui j'étais déjà. Du coup, ça aide. Après, d'autres, les nouvelles. Au départ, c'est vrai que les 2 premiers matchs en N2, c'était un peu compliqué le fait de s'habituer, entre la différence entre les pros et les N2. Le niveau, le rythme et tout. Et au final, là maintenant, c'est bon.
Oui, de toute façon, tu n'es pas dans la position de te rebeller. Tu sais que tu es la plus jeune et que ton jour viendra où tu auras vraiment ta place dans cette équipe. Donc, tu apprends plus de l'expérience des autres filles qui sont là.
Ça. Oui, c'est ça.
Ouais, parce que, bon, à 19 ans, je pense que...
Bah oui, tu vas pas te mettre à gueuler sur... Tu vas pas te mettre à gueuler sur le coach, il n'y a pas de place dans l'équipe.
Après, tout dépend du niveau. Hein. Si tu as un très bon niveau et que tu te sens légitime, ça peut être une marque de reconnaissance et pour progresser pour certaines personnes. Enfin, en tout cas, au vu de ta fiche qu'il y a sur le site pour présenter les différentes joueuses, en tout cas, c'est pas ce qui ressort... dessus.
Et ouais, justement, vu que t'es la plus jeune, comment tes coéquipières se comportent avec toi? Est-ce que vraiment elles te couvent? Elles en font un peu plus qu'avec les autres? Comment ça se passe? Prends la question piège.
Ouais. Ouais, non, je dirais pas qu'elles me couvent, justement, elles me poussent pour que je me bouge encore plus, en fait.
Okay.
Non, je dirais pas qu'elles me couvent, non. Je pense que sache des fois par exemple que je peux faire mieux et me booste encore plus.
Oui.
Et puis au vu du poste que tu peux avoir, c'est vrai que je pense que ça doit plus être dans le conseil que dans le reproche au final. Quand elles ont quelque chose à dire.
Oui, voilà. Aussi,
et
oui.
C'est vrai que bah, voilà, comme tu le dis, tu as une progression encore à faire. Oui, et, oui. C'est vrai que voilà, passer du niveau. N2 et puis d'aller rejouer avec l'équipe pro, de faire des, ça peut être compliqué aussi d'un
oui.
point de vue mental.
Oui, après de se dire bah au final je m'entraîne et que je joue pas forcément avec les pros, mais je le savais déjà, donc voilà. Enfin, je me dis que ça viendra un jour et pour l'instant déjà je m'entraîne et voilà, je verrai par la suite.
Après, déjà dans, je pense que déjà dans le groupe à chaque match c'est déjà
oui,
une,
déjà
une
aussi,
victoire
déjà,
qui
voilà,
pour
c'est
toi,
ça,
oui. Enfin, après, je pense aussi que voilà, tu apprends aussi en observant.
Oui.
C'est vrai que c'est peut-être encore moins frustrant d'être sur le banc et de ne pas rentrer qu'être en tribune et les encourager.
Voilà, oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Donc, c'est vrai que pour ta formation, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Mm. Donc, le club est quand même à une belle place. Hein. C'est vrai qu'en début de saison, je pense que si, même nous, si on nous avait dit, bon, bah.
Oui.
7e journée, 5e, et quand on regarde les écarts, c'est une potentielle même 3e place hein, en termes d'égalité de points.
Ouais.
C'est vraiment la différence entre les victoires et les défaites. Et quand on regarde le bilan à domicile, c'est 2 victoires pour 2 défaites
ouais,
à domicile,
ouais.
Des victoires à l'extérieur. C'est un beau parcours quand même pour le club en ce début de saison.
Bah oui, comme vous dites, je pense que si on nous avait dit qu'on en serait là aujourd'hui, on l'aurait pas forcément cru quoi.
Et justement, tu vois comment les prochains matchs, parce qu'il y a quand même des grosses équipes là, qui vont
ouais,
s'enchaîner.
C'est les grosses équipes qui arrivent. Après, je pense qu'on est une équipe en fait qui peut surprendre un peu tout le monde. En fait, enfin, personne s'attend à ce qu'on soit peut-être dans le haut tableau. Et je pense qu'on a un style de jeu qui fait qu'on peut poser problème quand même à pas mal d'équipes.
Donc, c'est vrai que ce week-end, il y avait déjà un match
ouais.
quelque part qui était important en vue d'un futur maintien,
ouais,
en tout cas
ça.
D'aller jouer ses play-offs, puisque c'est les 8 premières qui vont jouer en play-offs, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et les 4 dernières.
Et les 4 dernières qui jouent en play-down avec le risque de redescendre. Mm. C'est vrai que ça va. Quand on voit les écarts, c'est vrai que ça va se jouer à des petits détails et à pas grand chose. Et c'est vrai que là, pour l'instant, le parcours d'Angers, en tout cas, là-dessus, il y a des défaites, on va dire, logiques.
Oui.
À cause d'un écart de niveau qui est reconnu de base. Et le fait de gagner était plus un coup formidable. Justement, c'est un début de parcours qui est encourageant. À la trêve, pour l'instant, l'idéal du coach, c'est quelle place ?
On n'en a pas forcément parlé. Après, c'est vrai que si on peut grappiller des matchs, on le fera, quoi.
Donc, la saison dernière, elle était encore spéciale, parce qu'il n'y avait pas le retour tout à fait encore des spectateurs. Toi, justement, tu l'as ressenti comment de, cette saison ?
Vis-à-vis des spectateurs ?
Vis-à-vis des spectateurs, même de sur ta façon de jouer.
Le début de saison était compliqué. Je pense que je n'étais pas forcément prête à l'intensité du niveau des pros. Donc oui, le début de saison était compliqué, je jouais pas du coup, enfin je méritais pas forcément d'être sur le terrain. Et après après les vacances de Noël, j'ai commencé à bien m'entraîner. Donc le coach pouvait me faire plus confiance et après j'ai eu l'opportunité, il m'a laissé l'opportunité de jouer des minutes et ça s'est bien passé. Puis après on est monté donc voilà.
Ouais, justement cette montée, tu l'as ressenti comment?
C'était génial. En plus, on avait un groupe, on était vraiment solidaires. Enfin, on avait vraiment un bon groupe. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on est monté. Donc non, c'était trop bien.
T'étais pas un peu dégoûté justement qu'il n'y ait pas de supporters pour fêter ça avec vous?
Si, ça, je pense que c'est ce qui nous a manqué. Ouais. Parce qu'après, on a su qu'on était championne. C'était à la tronche, c'était à l'extérieur. Quand on est rentré sur Angers, bon, on l'a fêté un peu avec les gens du club, mais bon, c'est pas pareil, quoi.
Ouais, c'est clair.
Donc, on va peut-être pas marquer une
non, seconde bah, de pause. Non, on peut enchaîner. Ouais. Si, t'as des questions.
On va revenir sur ton parcours, du coup, en équipe de France. Déjà, comment tu l'as appris pour toi, est-ce que c'était... un rêve déjà de base d'aller jouer en équipe de France.
Oui, je pense qu'en fait c'était un. Oui, pour moi c'était mon rêve en fait de jouer en équipe de France. En fait, j'avais déjà fait des sélections, enfin, mais c'était juste des présélections. Il n'y avait pas de championnat d'Europe ou championnat du monde, c'était. Il n'y avait rien. Et là, quand j'ai su que j'étais dans les 12 pour faire le championnat du monde, pour moi, oui, c'était mon rêve qui se réalisait, quoi.
Justement, ce championnat du monde, ça s'est passé comment?
Un peu compliqué, on a fini 10e alors qu'on avait une équipe pour finir largement mis au moins dans le top 5. Et donc ça a été un peu compliqué. Après ça reste quand même une belle expérience. Enfin, moi j'étais contente de ce que j'avais fait aussi individuellement. Et non, oui, ça reste une belle expérience.
Donc justement, ouais, c'est vrai qu'à cet âge-là on pense pas forcément à l'équipe de France, on a plus envie surtout l'été de prendre des vacances, de profiter un peu des amis, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça.
Bon, après je pense que t'hésites pas longtemps.
Voilà, c'est ça.
Oui, mais tu vois, c'est pas faut avoir quand même l'idée en tête que quand tu rentres dans un groupe comme ça, ça va être une partie importante de ta vie, quoi. En tant que sportif, et puis même à côté, je pense que il y a le sportif, effectivement, dans ce rassemblement, mais il y a aussi l'extra-sportif et la vie en communauté, tout ça, avec des gens que tu connaissais pas forcément. C'est vrai que je pense que, voilà, d'un point de vue personnel, ça a dû t'enrichir.
Ouais, après, voilà, le fait de pas avoir d'été, quand c'est pour aller en équipe de France, c'est pas dérangeant. Donc, non, ça m'a pas dérangé, justement, j'étais contente. Enfin, je me suis dit que ça arriverait peut-être qu'une fois dans ma vie, donc... Voilà.
Ouais, parce qu'on a parlé de championnat du monde, mais c'était les U19, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Oui, voilà, ça. Et c'était où?
En Hongrie.
D'accord. Okay. Pas mal, là. C'est pas mal, la Hongrie. C'est bien.
Justement, en fait, avec le Covid, on n'a pas pu sortir, donc c'était pas. Tu te rappelles
tout
voilà.
Ah
oui, j'ai oublié ce truc.
Et ouais. Du coup, moi j'avais une curiosité, c'était sur le niveau des joueuses qui jouaient avec toi. Toi, donc, tu es, on va le dire, un peu réserviste ici à l'UFAB. Elles, comment ça se situe globalement? Est-ce qu'elles sont un peu comme toi, un réserviste de grandes équipes, ou est-ce qu'elles jouent à des niveaux plus bas?
Du coup, l'année dernière, j'étais en Ligue 2 quand ça s'est passé. Il y avait pareil des joueuses de Ligue 2. C'était souvent ça, c'était souvent des joueuses de Ligue 2 ou des joueuses de Ligue ou des joueuses qui étaient à l'INSEP, au centre fédéral.
Okay. D'accord.
Et pareil, il y avait des réservistes, il y en avait qui jouaient plus quand même en Ligue 2.
Et justement, petite question comme ça, comment tu as appris ta sélection? Est-ce que c'est le club qui t'a informé? Est-ce que c'est le sélectionneur directement?
C'est, C'est le sélectionneur, oui, directement. En fait, on reçoit un mail de la Fédé comme quoi on est convoqué pour un rassemblement.
Tu dois voir ce mail, tu te dis encore une pub.
et non. Quand tu reçois ça, t'es content.
Tu te retrouves en Hongrie.
Poubelle. Pas de spam.
Aïe, aïe.
Mais de base, on était 18, en fait. On est 18 et après, ils coupent 4 joueuses. Du coup, on n'est plus 14 et après, ils en recoupent 2.
D'accord. Ok. Ah oui, donc il y a quasiment la moitié qui ne sont pas prises.
Oui.
Donc parmi les équipes que vous avez affrontées, il y avait le Brésil, la Corée, l'Espagne, le Canada, l'Argentine, l'Égypte et le Japon.
Oui.
Il y a une équipe qui t'a marqué le plus en termes de qualité de jeu de...
Je dirais le Japon. Parce que, enfin, c'est spécial en fait comme jeu. C'est complètement différent de notre jeu, du jeu européen en fait. Je dirais que ouais, c'est le Japon.
Et à titre personnel, toi, satisfaite de ton tournoi?
Oui, j'étais satisfaite. J'aurais pas pensé peut-être jouer autant. En vrai, j'étais contente de ce que j'ai fait.
Ouais, t'as quand même mis quelques points durant ce tournoi-là.
Oui, ça allait.
T'as quand même eu, voilà, t'as eu une vingtaine de minutes. En moyenne, sur tous les matchs.
Mm.
Donc c'est vrai que je pense que oui, tu peux être satisfait de cette expérience-là.
Après, ce qui est dommage, c'est le fait d'avoir fini 10e. Bon, bah forcément, tu peux être contente de ta performance individuelle, oui. Mais bah, le fait de finir 10e, voilà quoi. Ça...
Je crois que c'est ton entraîneur qui disait dans une interview, je crois, à Ouest France, que lui, il avait trouvé que ça t'avait apporté des choses, justement, quand tu étais revenu en début de saison de cette expérience en équipe de France.
Vis-à-vis, je pense, surtout du stress. En fait, l'année dernière, je stressais beaucoup avant les matchs. Et là-bas, je me suis dit que j'avais rien à perdre. Du coup, je n'étais pas du tout stressée. Et au final, là, je suis revenue, pareil, pas stressée.
Ouais, t'as pris en maturité.
Oui, peut-être, ouais, je pense.
Ouais, puis c'est le fait que les bases ont été posées avec ton entraîneur
pour oui, aussi, peut-être,
ce qu'allait ouais. être la saison. Je pense que voilà, tu sais que t'auras des opportunités, mais que t'as pas la pression qu'il faut que je réussisse.
Voilà, c'est ça, ouais.
Donc je pense que voilà, c'est...
Et justement, par rapport à l'équipe de France, t'y as goûté. Est-ce que j'imagine que t'as envie d'y retourner?
Ah oui, forcément.
C'est un gros objectif pour toi?
Oui, j'aimerais. Oui, c'est cet été, enfin l'été qui va venir, championnat d'Europe.
Ok.
On verra bien.
Il se joue où ?
En Italie ou en Grèce ?
Ok.
Ouais, en Italie, je crois.
Et donc on espère que tu vas y participer. Tu sais, ça se passe comment les sélections ? Tu le sais combien de temps avant généralement que tu participes ?
Souvent, on a un rassemblement en février-mars, je crois. Donc, je pense vers janvier, on sait si oui ou non on est dans le groupe.
Okay. En tout cas, avec la saison, tu as l'air de passer avec les U19. Hein. Pas les U19, en N2. Mmh. En tout cas, c'est un parcours encourageant en vue de que le sélectionneur puisse t'appeler.
Mmh. Après, on verra bien parce que y a plein d'autres joueuses qui jouent en Ligue aussi, en Ligue 2. Donc, on verra, mais j'espère oui.
Et 2024, quelque part, c'est dans ta tête ou tu penses que c'est encore un cap
Je pense que important, c'est encore un autre cap. Je pense oui, que c'est encore un autre cap. Parce que là, je suis qu'en équipe de France jeune. Il y a plein d'autres joueuses encore plus vieilles qui sont déjà en équipe de France A. Je pense que c'est encore un autre cap.
De toute façon, au-delà du cap...
Mais par contre, il y a ton coach, David Gauthier, qui avait dans le staff. Donc, il peut te pistonner, on ne sait jamais si jamais il y a besoin.
Oui, on
ne
sait jamais, oui.
S'il nous écoute,
il peut souffler ton nom.
Comme ça. Hein.
Puis c'est pas, on parlait d'un cap, mais c'est surtout, je pense, le summum
que tu
puisses viser, faire les JO.
Après, c'est dans 3 ans, c'est ça qui est...
Oui, mais que ce soit 2024, c'est vrai que ça paraît court, mais pourquoi pas 2028, 2032, enfin voilà. Il faut rêver.
Ah oui. Il faut rêver.
Toujours.
Et le rêve est encore plus beau quand tu joues à domicile.
Effectivement.
Ah, c'est vrai.
Puis tu sais, il y a une chanteuse qui a dit viser la lune, ça me fait pas peur. Hein.
Ah oui.
Ah ouais, c'était qui, tu peux me dire?
Yann ou Lam ou quelqu'un comme ça. Enfin...
Ok, on demandera à nos auditeurs s'ils ont la réponse.
Voilà, référence. ce que je vous propose, les gars, c'est comme on approche de la fin, on va peut-être faire un petit ping-pong.
Allez, petit ping-pong.
Un petit ping-pong. Qui c'est qui engage ? Alors, on va t'expliquer. Parce que...
Ah oui, déjà, il faut expliquer.
C'est vrai que, d'habitude, on explique. Hein. Le ping-pong, ça va être des questions toutes simples. Généralement, un choix multiple. Tu auras souvent deux choix. Ou des questions autres que sur le basket. C'est juste pour mieux te connaître toi en tant que personne et non que la joueuse.
Ok.
Là, tu as.
Qui commence ? Qui fait le service en premier ?
Bah écoute, vas-y.
Alors, pour fêter après un match, tu gagnes un match, tu préfères sortir faire la fête avec tes coéquipiers ou alors tu restes chez toi tranquille devant ta télé, devant Netflix. Tu te reposes quoi. Attention l'hygiène des joueuses.
Ouais. Alors le staff, si vous écoutez, c'est le moment juste de couper ça pendant 30 secondes.
Ça dépend de la fatigue. En soi, on sort pas trop là. En fait, ouais. Donc je dirais plus Netflix.
Ok. Avec une série en particulier ?
Non, pas forcément. Il y en a pas qui me viennent.
Et devant Netflix, mais elle regarde rien.
Puis d'abord, t'as dit Netflix, mais c'est peut-être Disney Plus, hein, on sait pas. Hein.
On sait pas.
Voilà, du coup, t'es plus Netflix ou Disney ?
Disney.
Ah.
Ah, tu vois.
Voilà.
Tu poses pas les bonnes questions. Et une série particulière en ce moment sur.
J'aime bien regarder les Marvel en ce moment.
Donc demain, première heure, pour regarder Hawkeye. La nouvelle série Marvel.
Ouais. Ah, je ne savais pas. Bon, ben, je verrai. Alors.
Oh là là, bien joué.
Merci.
Ah, c'est ici qu'il y a les bons tuyaux. En
fait, Cédric promet sur l'actu.
C'est pas un générique. Hein. Je donnerai les infos. Hein.
On embrasse Yann,
bien sûr. Évidemment, qui doit nous écouter. Moi, si. Bah, c'est vrai que c'est une question que je pose, je crois, à chaque fois que je vois quelqu'un qui fait du basket. Au niveau de l'NBA, tu supportes une équipe ou pas ?
Les Nets.
Les Brooklyn Nets ?
Ouais.
Kevin Durant, tout ça ?
Ouais, James Harden.
Ouais. Ben voilà.
À la télé, tu regardes quoi comme sport ? Toujours le basket ou alors t'aimes bien regarder ? Il y a un autre sport que
tu kiffes regarder. J'aime bien regarder le foot.
Ouais.
Quand je peux, je regarde le foot. Ouais.
Il y a une équipe que tu supportes en particulier ?
Non, pas forcément.
Même pas Angers ?
Non.
Bah, on a le droit. Hein.
Bah, oui.
Évidemment. Ouais, évidemment.
Tu crois qu'il y a du monde ici qui supporte le score réellement ?
Oui.
Non, bien sûr qu'on supporte le score aussi.
Évidemment. Si on peut avoir quelques places d'ailleurs.
Au niveau des anciennes légendes de basket, t'es plus Chicago Bulls ou Lakers ?
J'ai pas trop suivi, mais plus les Lakers avec Kobe.
Avec, du coup, Kobe ou Jordan ?
Kobe.
Kobe, quand même.
J'ai plus regardé Kobe.
Voilà. Ouais, c'est la génération. Quoi,
Jordan, il aurait tourné dans un Disney. Il aurait essayé des points. Bon, il y a Space Jam 1. Que ça va regarder.
Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars ?
Pas forcément, pas forcément.
Bon, bah, très bien. C'est le moment de conclure. On remercie donc Jade Gaillard, notre invitée du jour, d'être venue donc, dans Génération Sport.
Merci à vous.
Voilà, la semaine prochaine, on ne sait pas encore qui seront nos invités, on vous communiquera ça évidemment sur nos réseaux sociaux, surtout ce soir, c'était un soir de Ligue des Champions. Max, petit point, si tu as des infos, il y a des compos.
Alors,
peut-être.
Petit point, oui, mais concernant les Ducs,
Donc aucun
les
rapport
Ducs
avec
mènent pas 1 ni 2, mais 3-0.
Oh là là,
je suis même pas à jour sur mon application.
Donc voilà, j'ai reçu 3 alertes d'affilée. Donc voilà, les Ducs d'Angers mènent 3-0 face à Cergy Pontoise.
Là, t'es précis.
C'est pas mal du tout. Sinon, pour parler de Ligue des Champions, on va surtout s'intéresser au match entre Lille et Salzbourg. Donc, il y a lieu dans 5 minutes, hein, démarrage du match enfin coup d'envoi du match pardon, à 21h. On rappelle hein, que c'est, si les Lillois gagnent, les Lillois peuvent passer premier de leur poule. Et donc on a une composition lilloise classique, j'ai l'impression, avec Yilmaz et Jonathan David, qui on le rappelle est le meilleur buteur du championnat de France en attaque. Renato Sanchez qui fait son retour dans le 11 type avec Sheka, Bamba et Timothy Weah sur les côtés. Puis une défense vraiment classique. Ouais, on espère que les Lillois vont faire un gros coup. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance hein, dans cette phase de poule pour le moment. Sinon, il y avait deux matchs, hein, on en a parlé, ouais, qui ont eu lieu avant. Manchester United l'a emporté sur le fil 2-0 face à Villarreal avec un nouveau but de Cristiano Ronaldo. Et puis, le Bayern a également remporté son match tranquillement face à Kiev, victoire 2-1.
Et donc voilà, ces deux résultats donc qui sont assez intéressants. On débriefera tout ça la semaine prochaine avec donc la Ligue des Champions. Vous écoutez en arrière-plan le générique qui vient de se lancer.
Bon, on va juste rappeler quand même les dates du prochain match de l'UFAB.
De l'UFAB, effectivement, de l'UFAB, oui, dès dimanche. Voilà. C'est Charleville-Mézières, donc un gros match. N'hésitez pas à vous déplacer donc à la salle Jean-Bouin pour supporter l'UFAB. Elles auront donc besoin de vous pour remporter ce match. Jade, tu seras ou pas?
Oui, je serai là.
Voilà, donc
match
parfait.
Match à 16h, du coup, contre le premier.
Contre le premier, ce sera donc, très, très, très gros match.
Il va falloir pousser, je pense, à un maximum. Il y a une belle histoire à écrire sur ce match-là. Mais même sur les, j'ai envie de dire, les trois prochains matchs à domicile vont être importants. Quoi.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc on vous remercie d'avoir écouté Génération Sport sur Radio G. On vous laisse avec la suite des programmes et nous, on se dit à mardi prochain pour une nouvelle émission de Génération Sport.